Bon, notre invité,
oui.
Il est là, Nicolas yes. Gagnon, qui parle au nom des contribuables. Ça, c'est rare, ça, quelqu'un qui parle au nom des contribuables. Comment allez-vous?
Ben, super bien, vous autres.
Ben oui, ça va bien. Ça va bien ce matin. Puis là, je regarde, est-ce que le prochain gouvernement devra augmenter les impôts? Là, je regarde le cadre financier du gouvernement dans la section F du dernier budget. Et effectivement, ça va remonter pas à peu près. Là. Je regarde les revenus autonomes, 129,9 milliards actuellement. On s'en va dans 5 ans à 154,8 milliards.
Oui, c'est ça. Donc, automatiquement, on sait que le gouvernement s'attend à aller chercher des revenus supplémentaires dans les prochaines années, puis c'est un peu là-dessus que base Éric Girard, son fameux plan là, pour le retour à l'équilibre budgétaire. Là. C'est comme en trois sections. Là, le plan, là, le premier, c'est apparemment de contrôler les dépenses puis de pas trop les augmenter au courant des prochaines années. Mais l'autre, c'est, vous aurez compris, le retour à l'équilibre budgétaire va se faire sur votre dos, essentiellement, avec des revenus supplémentaires. D'ailleurs, juste dans ce budget-ci, là, quand on compare à l'année dernière, 2025-2026, à l'année en cours, là, ils vont chercher pas loin de 6 milliards de plus dans nos poches dans ce nouveau budget. Là. Donc, juste au niveau de l'impôt sur le revenu, ils vont chercher 1 milliard de plus là, cette année dans nos poches. Puis ça, c'est sans oublier là, les centaines de millions. Là, on parle de pas loin de 480 millions en impôts supplémentaires sur les sociétés. Juste les taxes à la consommation, c'est 650 millions de dollars de plus que l'année dernière qu'on espère aller chercher dans nos poches. Donc, vous avez compris qu'au final, le calcul est simple. On essaie de tranquillement ralentir les dépenses, mais pas trop. On va augmenter les revenus de manière continue. Et sinon, on va se croiser les doigts que l'accord Canada-États-Unis-Mexique soit signé en bonne et due forme le plus rapidement possible pour ramener de la certitude économique. Puis c'est pas mal ça le calcul qui est fait. Donc, essentiellement, en anglais, on appelle ça du wishful thinking. Mais pour le reste, oui, c'est désastreux comme plan de match. Mais pour revenir au texte de Francis Veil sur les augmentations d'impôts à venir sous le prochain gouvernement, j'ai presque le goût de citer là, Paul Saint-Pierre Plamondon pour un peu près un enjeu du même ordre d'idée, là, où est-ce qu'il disait carrément over my dead body, il y avait des baisses d'impôts.
Ouais.
Là, je pense que ça doit être l'inverse. Over my dead body, les hausses d'impôts, parce que non, la balle est dans le camp du gouvernement, c'est à eux de couper et non à nous de payer plus.
Oui, mais on n'entend pas ça. Là. Hey, je regarde cotisation pour les services de santé, 9,1 milliards cette année, ça passe à 10,8 milliards. Dans 5 ans, impôt sur les sociétés, ça c'est correct. Impôt foncier scolaire, 1,2 milliard, ça va monter à quasiment 1,9 milliard d'ici 5 ans. Ça veut dire que les taxes scolaires vont monter, là.
Exact, parce que pour l'instant, ça a été plafonné. Là. C'était comme,
oui.
En fait, dans le dernier budget, c'était la seule bonne nouvelle pour les contribuables. Puis honnêtement, je pense que bonne nouvelle, on peut le mettre entre guillemets. Là. Mais on dit qu'on va plafonner l'augmentation de la taxe scolaire à 3% cette année. Mais de toute manière, ça, c'était une mesure qui a déjà été déployée par la CAQ auparavant. Là. C'est comme en sursis, fait qu'ils l'ont juste comme reporté pour une année de plus. Mais inévitablement, oui, on peut s'attendre à ce que peut-être qu'il y ait un choc au niveau des taxes au courant des prochaines années. On sait qu'on doit s'attendre à peu près à ça pour les tarifs d'électricité, d'ailleurs.
Ben, on voit, entreprise du gouvernement, c'est les sociétés d'État, ça, essentiellement.
Exact.
On passe de 5,3 milliards cette année de revenus à 7,3 milliards dans 5 ans. Donc, c'est 2 milliards de plus qu'on va venir chercher comme ça, dans les poches aussi des gens. Le pauvre contribuable, il se fait défoncer, là.
Oui, puis en même temps, c'est pas comme si on était de plus en plus contribuables. Tristement, au Québec, faut quand même rappeler, mettons, le portrait plus global des choses, où est-ce qu'on a quand même une population stagnante, où est-ce qu'on a une productivité qui en arrache, où est-ce qu'on a une population vieillissante, on a de plus en plus de départs à la retraite, donc de plus en plus de bénéficiaires versus le nombre de contribuables qui supportent la machine. Donc de se dire qu'OK, on va aller chercher des revenus supplémentaires. Certes, on s'entend que dans tous les cas, si jamais on a une croissance économique, c'est clair que le gouvernement va aller chercher des revenus supplémentaires. C'est le calcul qui est à faire là-dessus. Sauf que d'un autre côté, on constate qu'on essaie d'en chercher un peu plus à droite qu'à gauche. Et surtout, ben, on évite d'en redonner, en fait. C'est-à-dire qu'il y a d'un, dans le dernier budget, il y avait absolument rien pour les contribuables, pas de baisse d'impôts, ni de gel de taxes, ni rien. Mais à force d'avoir accumulé tous ces déficits-là au cours des dernières années, puis de nous avoir un peu, mis un peu dans une situation complexe où est-ce que c'est dur justement pour le gouvernement de se priver de revenus s'il ne fait pas une révision complète de ses programmes, ben ça fait en sorte qu'on reste dans le statu quo où est-ce que essentiellement le contribuable il se retrouve de plus en plus pressé comme un citron essentiellement, sauf qu'il y a de moins en moins de jus qui sort, mais la machine en demande constamment davantage pour financer des programmes, des infrastructures qu'on n'a pas les moyens de payer. Non.
Mais il n'y a pas un exercice de, comment on dit là, chaque gouvernement, des fois, quand il rentre en exercice ou en fonction, va faire une espèce de reddition de compte on va tout prendre les postes de dépenses, puis on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe, puis comment on peut économiser. Harper l'avait fait là, au fédéral, puis il avait trouvé des milliards de dollars. Pourquoi on ne fait pas ça au gouvernement?
Bien ça, c'est une très bonne question, parce que pour l'instant, on dit qu'il y a un examen des dépenses au gouvernement de la CAQ présentement. Du moins, c'est pas tout à fait la même chose que ce qui avait été fait à l'époque, de, par exemple, de Philippe Couillard avec la commission Robillard.
Exact.
C'est pas non plus la même chose qu'avec Harper ou sinon avec Jean Chrétien dans les années 90, où est-ce qu'à chaque fois, il y a vraiment eu une réouverture des livres complète, puis on est allé couper, pas juste dans le gros, on est allé couper littéralement dans l'os aussi à certains égards. Malheureusement, on n'a pas du tout ce réflexe-là. En plus, on est quand même en fin de régime, voire fin de mandat, donc on dirait que le réflexe n'est pas là. Puis il faut se rappeler aussi, en 2018, ça aurait été bien que ce soit continué, en fait, l'effort qui avait été fait au préalable sous le gouvernement libéral, parce qu'on se rappelle que la CAQ, quand ils sont arrivés au pouvoir, il y avait quand même un surplus de 7,4 milliards de dollars devant eux.
Là,
ils nous laissent une dette beaucoup plus importante, des infrastructures défaillantes, puis il faut aussi dire, on a quand même un déficit de 8,6 milliards dans la dernière année. On savait très bien là, que l'histoire de faire le ménage dans la dernière année de mandat, c'était tiré par les cheveux, notamment parce que c'est jamais très populaire à le faire. Là. Vous allez avoir les syndicats après vous, puis différentes organisations de la société civile qui vont faire pression avec les médias pour pas que ça se fasse. Par contre, il faut quand même mentionner une chose, peut-être un des rares points positifs du dernier budget, c'est qu'il y a bel et bien eu des coupures dans la fonction publique au niveau des postes. Donc, il y a une volonté de la part de France-Hélène Duranceau à faire le ménage dans les effectifs du gouvernement. Par contre, là, c'est un ménage en surface par rapport à ce qui est nécessaire.
Oui, puis si vous regardez là, le budget de la CAQ pour les prochaines années, là, on regarde là parce qu'on veut ramener le déficit à zéro en 2030, mais avec un taux de croissance des dépenses de seulement 1 % et un manque à gagner de 2 milliards par année qui n'a pas été identifié encore.
Oui, on n'y croit pas.
c'est des lunettes roses, là.
Oui, c'est absolument. Le fameux écart à résorber de 2 milliards, bon, il est plus petit qu'au dernier budget, certes, mais il est encore présent, puis on ne sait pas d'où l'argent va venir. Fait que, est-ce que c'est une augmentation d'impôts? Est-ce que ça va être, finalement, on va vraiment couper, mettons, je ne sais pas, Investissement Québec, ou on va couper dans le Fonds de développement économique? Si c'est ce genre de choses-là, OK, on va accepter, mais pour l'instant, c'est pas du tout dans les lignes. Puis oui, quand on dit lunettes roses, c'est effectivement le cas, parce que il y a beaucoup de wishful thinking en disant que ben la croissance économique va être au rendez-vous au courant des prochaines années. Pour l'instant, on sait que pour 2026, on va être pas mal les camps de la Confédération canadienne. Puis pour souligner même ce qu'Éric Girard dit dans son propre budget, ben tant si longtemps que l'accord Canada-États-Unis-Mexique n'a pas été négocié, puis ça, c'est vraiment pas... C'est loin d'être terminé. Non, là, on sait pas. Il y a quand même des chances que l'accord se signe jamais. Là. Il y a quand même, je veux dire, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais si, mettons, que ça arrive, ça vient complètement de brasser des cartes, dans le fond, toutes les projections ne tiennent plus sur rien. Mais ce qui est à retenir, quand même, dans ce budget-là, c'est qu'il vaut rien dans quelques semaines, parce que la réalité, c'est que, bon, le ministre des Finances, la présidente du Conseil du Trésor, tous ces gens-là ont quand même une forme d'autorité, mais le budget, il dépend quand même, à quelque part, des orientations du premier ministre. Puis ça, ben on va en avoir un nouveau le 12 avril. Mmh. Fait que ce qui est dans le budget, ça va changer. Puis même pire encore, on va en avoir peut-être un nouveau dans 5-6 mois. Donc, on va avoir une élection qui commence en septembre, changement de gouvernement. Les projections qu'on voit dans le budget présentement en termes d'augmentation des dépenses, c'est à condition qu'au gouvernement, il y aura un gouvernement qui va s'engager, qui aura un parti politique, pardon, qui va s'engager justement à faire ce ménage puis à maintenir la ligne. Puis je donne un exemple comme ça. Si jamais c'est un parti qui se retrouve minoritaire, par exemple, ben là, ça vient de changer pas mal la donne, parce que les gouvernements minoritaires, plus souvent qu'autrement, ils font des concessions, des compromis, puis généralement, c'est accompagné d'annonces de dépenses supplémentaires pour justement garder des votes à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, selon les circonstances. Donc, les chances qu'on maintienne le cap sur cette réduction des dépenses là, ou sur le contrôle des dépenses tout court, c'est très faible.
Mais est-ce qu'une agence de cotation pourrait évoquer une décote? Là, je regarde le service de la dette, parce qu'on met la dette augmente à chaque année, là, en passant. D'ailleurs, la dette augmente plus vite que le déficit. Ça veut dire qu'on prend des montants dédiés aux infrastructures puis on l'envoie directement sur la dette. Service de la dette, on est à 10,1 milliards par année de frais de dette, d'intérêt de la dette. On va passer à 12,2 milliards dans 5 ans par année.
Oui, c'est énorme. Il y a un coût à payer pour en ce qui a trait, par exemple, à la possibilité d'une décote. Je ne sais pas si ça va se produire, parce que pour l'instant, DBRS et Moody's ont quand même tous les deux indiqué là, qu'ils maintenaient la cote du Québec. Donc, c'est ça. Peut-être qu'il y a quand même des bonnes nouvelles à tirer à ce niveau-là, mais c'est quand même loin d'être terminé. Puis encore une fois, comme je disais tantôt, les agences de crédit s'entendent peut-être sur le budget qui a été présenté la semaine dernière, mais on sait que toutes ces projections-là vont changer au courant des prochaines semaines ou des 6 prochains mois. Est-ce que ça va être la même réalité en novembre, quand il y aura une mise à jour économique? J'aime permettre d'en douter là-dessus. Mais pour venir à la dette, j'aime ça comparer un peu entre le début puis la fin d'un régime. Dans le premier budget de la CAQ qu'ils l'ont déposé en mars 2019, la dette du Québec, la dette brute, était à 199 milliards de dollars. Là, est rendu à 272 milliards.
Hey!
Et d'ici le moment où est-ce qu'on devrait retourner à l'équilibre budgétaire, ça, c'est donc 2029-2030, donc il y a 10 ans qui séparent le premier budget de la CAQ du retour à l'équilibre budgétaire, la dette aura augmenté à 312 milliards. Donc, c'est 113 milliards de dollars de plus sur la dette du Québec en dedans de 10 ans. Après ça, on regarde alentour de nous, ben, qu'est-ce que ça nous donne de plus, 113 milliards de dollars de dette de plus? Ben, pas grand-chose. Mais c'est surtout aussi que ça a un impact sur le coût de la dette. Cette année, c'est 10,1 milliards.
Ouais.
Donc, c'est quand même, bon, c'est beaucoup d'argent, on s'entend. Mais dites-vous qu'en 2029-2030, on va être rendu à 12 milliards. Donc, c'est 1 milliard 12,2. Par mois.
Ouais, 12, quasiment 12,3.
Exact. Donc, on est rendu à 1 milliard par mois qu'on brûle littéralement. Là. C'est comme si on construisait un hôpital à chaque mois puis on le mettait en feu pour commencer le mois suivant. Là. C'est de l'argent qu'on met pas en santé, ni en éducation, ni dans les infrastructures, ni nulle part, puis qu'on gaspille à répétition. Et puis, c'est bien beau de dire qu'on revient à l'équilibre budgétaire, mais il faut aussi rembourser la dette. Sinon, ce coût-là va quand même continuer à augmenter à cause des intérêts. Et on sait très bien, au Québec, dès qu'on a des surplus budgétaires, le réflexe de dépenser cet argent-là est toujours plus fort que de l'épargner, de le remettre dans les poches du monde ou carrément, oui, de rembourser la dette du Québec, que je ne crois pas qu'il y ait eu de remboursement dans au moins la dernière décennie. Là.
Donc, éventuellement, les agences de cotation pourraient forcer le gouvernement à faire un ménage dans ses dépenses. Là. On l'avait dit l'année passée, puis ils ont comme été en maquillage, là, parce que carrément, c'est du maquillage qu'on a devant nous autres, là. Mais
oui.
Tôt ou tard, les agences de cotation vont dire « Là, là, ça marche plus. Là. Le mur, vous l'avez frappé. Faites un ménage, sinon vous allez être encore décoté. Donc, vos coûts d'emprunt vont encore monter. »
Ben c'est ça. Le plus gros rappel, le drapeau rouge ultime, que vous soyez un gouvernement de droite ou de gauche qui va venir brasser les choses puis qui va vous forcer à mettre de l'ordre dans les affaires publiques, c'est généralement les appels de la banque ou des agences de notation.
Exact.
Donc, on a eu le rappel l'année dernière. C'est quand même la première décote du Québec en plus de 30 ans. Donc là, pour l'instant, on évite peut-être le pire présentement, mais c'est le prochain gouvernement va quand même se retrouver avec une sorte d'épée de Damoclès là, pour lui dire, écoute, là, t'as pas le choix de maintenir le cap sur un contrôle des dépenses puis de trouver des économies, parce que sinon, t'as une autre décote, puis la décote, ben, ça affecte nécessairement la confiance en le marché, en le Québec et tout ça. Donc, on veut absolument éviter ça. C'est pour ça que je comprends un peu le réflexe de certains commentateurs là, qui sortent en disant, ben, il va falloir que le prochain gouvernement augmente les impôts. En se disant, ben, c'est la seule manière de sauver la face des finances publiques ou du moins par rapport aux agences de notation. Mais je pense que c'est comme voir juste un côté de la médaille. Mais on ne s'intéresse jamais à l'autre.
Exact, exact. Puis là, 1er avril, attachez votre tuc, là, les auditeurs, là, les salaires des députés de l'Assemblée nationale vont encore monter. Et quand on pose la question aux Québécois, ben, 2 Québécois sur 3 s'opposent à ce que leur salaire augmente encore.
Exact. On a fait un sondage avec la firme Léger auprès des Québécois pour savoir ce qu'ils pensaient de l'augmentation du salaire des députés là, qui est prévu le 1er avril prochain pour du moins les députés à l'Assemblée nationale, parce que c'est pas les seuls. On se rappelle que entre autres, là, ceux à la Chambre des communes aussi, on voit une augmentation de salaire le 1er avril.
Ouais.
Ben là, dans ce cas-ci, c'est à l'Assemblée nationale du Québec. Donc on se rappelle l'augmentation de salaire en 2023 de 30%. C'était pas la fin, parce qu'après ça, le salaire est ajusté à chaque 1er avril en fonction de l'augmentation des revenus observés auprès l'augmentation des salaires, des plus hauts placés dans la fonction publique québécoise, donc des principaux dirigeants. Puis cette variation-là, ça représente environ 3,3%, donc automatiquement, l'indemnité de base des députés le 1er avril prochain augmente de 4 750 $ pour atteindre là, la modique somme de 146 000 $. Ça, c'est Ça, c'est vraiment le salaire du député, donc sans responsabilité parlementaire. Mais si vous êtes, par exemple, ministre, votre salaire augmente à quand même 256 000. Et dans le cas, par exemple, du premier ministre, ben lui, son salaire va franchir le cap symbolique des 300 000. Donc, tout ça arrive dans un contexte où, bon, on vient d'en parler en masse, où est-ce qu'on a des finances publiques dans le rouge, pas à peu près. Et ben les Québécois sont clairement pas d'accord. Donc, 68 % des Québécois sont contre l'augmentation de salaire. En contrepartie, là, vous avez quand même là, 18 %, mais c'est pas grave. Quand on retire les indécis, c'est 79 % des Québécois qui sont contre l'augmentation. Donc, nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y aura peut-être un minimum de leadership ou de courage politique à l'Assemblée nationale. En 2023, le PQ et Québec solidaire s'y étaient opposés. C'était déjà ça. Mais là, on espère qu'à une semaine de l'augmentation de salaire, il y aura peut-être un geste de la part des autres partis qui vont dire, ben, effectivement, tant qu'on n'a pas de retour à l'équilibre budgétaire, on va dire non à une augmentation de salaire. Et ça serait quand même la moindre des choses, pas juste en termes de solidarité, mais aussi en termes d'envoyer un geste clair qu'on va serrer à la ceinture, nous aussi.
Hey, c'est capoté, là. Les députés de l'Assemblée nationale en 2023 gagnaient 101 000. D'un coup, ils sont passés de 101 000 à 131 000. Et là, tu me dis qu'au 1er avril, ils vont toucher un salaire de 146 000. Donc, en l'espace de 3 ans, leur salaire aura augmenté de 45 000 piastres.
Oui, c'est une augmentation de pas loin de 44,4% d'augmentation de salaire en 3 ans.
Incroyable.
Exact. Je suis pas sûr qu'il y a bien de monde en société civile qui ont le droit à ces avantages-là. Il faut rappeler aussi qu'on doit une pension après 8 ans de service. Il faut rappeler aussi qu'ils ont des décomptes de dépenses. Puis ça, bien sûr, on ne parle que de l'indemnité de base. Si vous avez moindrement de responsabilité comme un leader parlementaire ministre, vous êtes déjà dans les 200 000. Donc, vous n'êtes pas à plaindre.
Nicolas Gagnon, vous êtes salué. Je pense que votre travail en tant qu'association qui défend les droits des contribuables, c'est louable. Hein? Puis on va souhaiter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'optimisme pour les prochains mois. Merci beaucoup.
Bon, on va s'en souhaiter effectivement. Ça fait plaisir. À bientôt.
Bye-bye. Voilà. Incroyable. Hey, le salaire d'un député est passé de 101 000 à 145 000 en 3 ans.
Il n'y a pas de problème, Pierre.
Puis eux autres, là, c'est la même gang qui nous disait... Là, que...
30 % d'augmentation, c'est ça.
30 d'un coup, mais là, depuis deux ans,
oui, c'est ça.
En plus, les augmentations annuelles au 1er avril.
Tout à fait.
Fait que tu passes de 101 000 à 145 000 en 3 ans.
Tout va bien.
Donc, tu gagnais, écoute, c'est 45 000 piastres d'augmentation, 44 000 d'augmentation. Ils étaient à 100 000, eux autres.
Je comprends.
C'est 44 % d'augmentation en 3 ans.
C'est l'inflation et le coût de la vie, Pierre. Il faut que le salaire suive.
Après ça, ils donnent l'exemple. Après ça, ils disent, ben, on va monter le salaire dans la fonction publique.
Ben
oui,
c'est inévitable.
Et les autres lobbies là, qui regardent ça, là, on va aller là aussi. Bon, après la pause, on va où?
On va jaser de santé, Pierre.
Oui, Karim El Ayoubi débarque. On va parler de, ben, notamment, santé, budget de la santé. Ah, t'as vu, là, le gouvernement monte de 4,1% les dépenses en santé. Puis je veux l'entendre aussi sur l'IA.
Oui.
On dit que l'IA pourrait amener beaucoup de bienfaits dans le réseau. Je sais pas, là. On va voir.
Suivre.
On vient.
Couture dans le mid. Radio. X.